France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, 95, l'esprit de décembre. Épisode 4, intellectuels en fusion. Le 14 janvier 1898, dans le journal L'Aurore, paraît une pétition signée par plus de 350 personnes. Les signataires affirment leur soutien à l'écrivain Émile Zola, qui vient de faire paraître dans les colonnes du même journal un pamphlet intitulé « J'accuse ».
J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit.
Il y soutient Alfred Dreyfus, accusé à tort d'espionnage en faveur de l'Allemagne. C'est à cette occasion qu'émerge dans l'espace public un mot, ou plutôt un concept, celui d'intellectuel. Car cette pétition n'est pas signée par des parties prenantes de l'affaire à proprement parler, mais par des personnalités publiques. On y trouve des noms d'écrivains comme Marcel Proust ou Anatole France, mais aussi le peintre Signac ou encore le bibliothécaire de l'École normale supérieure, Lucien Herm. Autrement dit, il s'agit d'une démarche au nom du bien commun, d'une prise de position relevant de la philosophie et de la morale sur des sujets d'actualité, pas d'une défense de son propre statut ou de sa propre personne.
Réveille-toi, peuple de France, il faut sauver l'humanité. Redresse-toi, reprends confiance, un souffle d'espoir est passé.
L'intellectuel à la française est né. Ce penseur qui pense à tout, et pas seulement à ce qui le concerne. Cette sorte de mauvaise conscience du pouvoir que l'on désigne sous le mot d'intellectuel ne date pas de l'affaire Dreyfus. Victor Hugo était déjà un penseur total qui prenait des positions politiques, Voltaire et Rousseau également avant lui. Mais le XXe siècle semble avoir été le siècle d'or de ces figures qui prenaient position, les Mauriac, Beauvoir et autres Malraux.
Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé.
Et ce siècle des intellectuels semble s'achever avec la figure de Pierre Bourdieu, le dernier à avoir, selon moi, revendiqué réellement ce statut d'intellectuel au sens traditionnel du terme. Car l'intellectuel se doit d'avoir une audience très large dans l'opinion, et je ne vois pas qui, depuis Pierre Bourdieu, pourrait aujourd'hui revendiquer cette place de guide pour une génération, ou du moins pour une grande partie d'entre elles. Car Pierre Bourdieu a proposé une grille de lecture du monde qui s'est diffusée profondément dans les débats de société.
Je dis que les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient.
Pour faire très vite, sa pensée met en lumière les multiples façons dont on peut être soit dominant, soit dominé dans un groupe ou dans une société donnée. On est dominant ou dominé en fonction de ce qu'il a appelé les différents capitaux dont nous pouvons disposer, capital financier, capital culturel, symbolique ou encore social. On retrouve aujourd'hui ces idées dans des concepts comme ceux de domination masculine, de privilège blanc ou de rapport de pouvoir au travail. D'une certaine manière, Bourdieu a contribué à faire émerger la notion d'intersectionnalité à la française. L'intersectionnalité, c'est quand des personnes dominées le sont de plusieurs manières, comme par exemple quand elles sont à la fois sans papier et homosexuelles, ou encore femmes et racisées. Bourdieu avait forgé un terme pour les personnes dans ces situations. Il les appelait les dominés-dominés, car ils sont dominés dans plusieurs champs à la fois. Ils manquent de plusieurs types de capitaux en même temps. Ce qui fait de Bourdieu un intellectuel au sens traditionnel dans la lignée de Zola, c'est aussi qu'il a cherché à faire le lien entre la recherche fondamentale en sociologie et la réalité des conditions de vie des gens.
Voilà, je suis institutrice, mon mari est commerçant, je suis mère de famille, j'ai 3 enfants. C'est tous les jours un peu plus difficile de les élever, j'avoue qu'il y a des nuits de désespoir où on ne sait plus comment on va payer une traite.
Son livre « La misère du monde », publié en 1993, s'est voulu une cartographie de la souffrance sociale du moment 2 ans seulement avant les grèves de 1995. On y trouve des entretiens approfondis avec des chômeurs, des précaires, des déclassés, des travailleurs sociaux, des jeunes de banlieue, des policiers ou encore des couples en difficulté. Cet ouvrage scientifique était un peu austère et pourtant, contre toute attente, il avait rencontré un très large public.
Quand on publie Bourdieu, La misère du monde, on vend sur un livre qui est quand même un livre lourd et pas toujours facile d'accès. On a vendu 80 000 exemplaires de ce livre, ce qui est tout à fait étonnant.
au moment où le mouvement social prend forme, en 1995. Pierre Bourdieu est professeur au Collège de France et sa voix compte dans le débat intellectuel. Mais il n'est pas encore cette personnalité iconique qu'il va devenir par la suite. Et c'est précisément ce mouvement de 95 qui va agrandir son audience. Car il met des mots sur ce que beaucoup des manifestants ressentent. Il incarne un mouvement puissant dans l'opinion, opposé au libéralisme et à la mondialisation. À partir de 1995, il est l'intellectuel de la gauche, ou plutôt d'une partie des multiples nuances de la gauche, que beaucoup d'ailleurs ont appelé la gauche Bourdieu. Le 13 janvier 1993, quelques jours après la fin du mouvement,
réplique, y a-t-il deux gauches avec Henri Mahler et Olivier Mongin.
Alain Finkielkraut n'utilise pas, lui, le terme de gauche Bourdieu dans son émission, mais il constate un schisme, ou plutôt des schismes, entre les diverses composantes de la gauche.
La gauche est multiple. On peut citer en vrac, et sans exhaustivité, la gauche républicaine, la gauche américaine, la gauche tiers-mondiste, la gauche communiste, la gauche trotskiste, la gauche techniciste, la gauche écologique, la gauche libérale, la gauche libertaire, la gauche libérale-libertaire, la gauche pro-bosniaque, la gauche pro-serbe, la gauche qui s'en fout, la gauche...
Si Alain Finkielkraut décide de consacrer son émission à la question « Y a-t-il deux gauches ?», précisément en janvier 1996, c'est parce que deux pétitions ont fracturé la gauche française durant le mouvement qui s'est achevé quelques jours plus tôt. La première pétition est à l'initiative de la revue Esprit, considérée comme de centre-gauche. Cette pétition rassemble des intellectuels qui estiment que les assurances retraite et santé méritent d'être réformées. En cela, les intellectuels d'Esprit apportent un soutien critique, mais un soutien tout de même au plan d'Alain Juppé. La seconde pétition répondait à la première. Emmenée par le militant et enseignant Henri Mahler, elle affirmait le soutien au mouvement d'autres intellectuels. Pour ses signataires, les grèves n'étaient en rien corporatistes, mais porteuses d'un modèle de société différent. On écoute Henri Mahler le 12 janvier 1996.
À l'évidence, le motif immédiat de la mise en mouvement du mouvement gréviste était un motif partiel. Certains ont dit catégoriel et, pour faire bonne mesure, corporatiste. Mais très rapidement, le mouvement, sinon dans ses objectifs immédiats, du moins dans les aspirations, le réapprentissage de l'action collective, a posé des problèmes qui étaient des problèmes beaucoup plus globaux. Si on cherche la signification d'un événement, il faut le chercher dans sa dynamique et aussi en partie dans son issue. Je ne dirais pas que la grève des traminots de Marseille constitue la vérité de l'ensemble du mouvement. Mais quand on voit une grève victorieuse qui pose le problème de l'égalité, qui pose le problème à travail égal, salaire égal, la suppression d'une inégalité de statut, et où on voit des travailleurs qui ont le statut privilégié, c'est-à-dire l'ancien statut, faire grève majoritairement pour obtenir que ceux qui ont le statut minoré obtiennent des droits égaux, on se dit qu'il se passe au sein de cette société des choses qui sont porteuses d'espoir.
Marc-Olivier Padis, vous êtes directeur des études au think tank Terra Nova, classé généralement au centre-gauche de l'échiquier politique. En 1995, vous étiez le rédacteur en chef de la revue Esprit. Comment est-ce que vous définiriez le positionnement politique de la revue Esprit à l'époque ?
Oui, c'est intéressant que vous ayez mentionné cette émission sur les deux gauches, parce que dans les années 70, quand on disait les deux gauches, il y avait la première gauche qui était un peu la gauche SFIO, et puis la deuxième gauche qui était la gauche plus réformiste derrière l'image de Michel Rocard. Et donc Esprit, c'était ce qu'on appelait aussi, à la suite de ce qu'on a appelé dans les années 70, la nouvelle question sociale. C'est-à-dire, c'était plus simplement le prolétariat, représenté par les ouvriers comme avant-garde d'une transformation de la société, mais c'était d'autres mouvements qui traversaient la société, le féminisme, les exclus, les banlieues, les jeunes, les immigrés, voilà, c'était tous ces sujets.
Donc le sociétal plus que forcément l'opposition classe contre classe, on peut résumer un peu les choses comme ça.
Absolument, et d'autres combats sociaux malgré tout, qui étaient aussi des combats, des conquêtes sociales à faire, mais qui concernaient des catégories de la population qui n'étaient pas au centre des préoccupations de la gauche classique, effectivement, classe contre classe, où la classe ouvrière avait un rôle historique particulier.
Alors, on va revenir sur le rôle de Bourdieu dans cette émission, mais d'abord, parlons d'Esprit. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce moment où la revue Esprit décide de lancer une pétition de soutien critique, mais de soutien tout de même au plan Juppé?
Oui, d'ailleurs j'étais présent à ce moment-là. En fait, il faut se remettre dans la situation exacte. C'était une pétition de soutien à Nicole Notat au départ, parce que Nicole Notat avait été bousculée au cours d'une manifestation à laquelle elle participait, parce que justement, dans le plan Juppé, certains éléments correspondaient à des revendications anciennes de la CFDT. Et donc ça, c'est un problème classique pour la gauche et qui se posait aussi à Esprit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réagit politiquement quand des propositions que vous défendez depuis longtemps sont reprises par un autre camp, et là, le camp conservateur. Il y a un point, par exemple, qui est souligné dans la pétition d'Esprit et qui tenait à cœur à la revue, c'était la question de l'élargissement des cotisations. On ne va pas rentrer dans le détail technique de l'opération, mais disons, en gros, le système de sécurité sociale français, il est fondé sur des prélèvements patronaux et salariaux qui sont pris sur les fiches de paye. Mais pour les gens qui n'ont pas de fiche de paye, qu'est-ce qui se passe? Donc pour les jeunes qui ne sont pas encore rentrés dans la vie active, etc. Et donc, plusieurs courants à gauche avaient plaidé pour élargir les choses, et notamment élargir les cotisations avec la cotisation sociale généralisée, la CSG, qui n'a cessé d'ailleurs d'être utilisée depuis pour financer notre système social.
Donc qui est
social.
Un impôt qui n'est pas sur le travail en lui-même, voilà. Qui est un impôt qui est plus large et qui, au fond, voilà, ne pèse pas seulement sur les travailleurs ou sur les entreprises.
C'est pas une cotisation. C'est pas une cotisation prélevée sur votre salaire brut. C'est un prélèvement qui s'apparente effectivement à un impôt.
Alors quand vous lancez cette pétition, est-ce que vous pensez que ça va passer comme ça? Évidemment, vous ne souhaitez pas que ça passe inaperçu, mais est-ce que vous attendez à ce que ça fasse autant de bruit que ça en a fait? Et est-ce que vous vous dites qu'il y a un risque d'un schisme à gauche qui soit vraiment important?
Non, pas du tout, parce que vous savez, signer des pétitions à gauche, c'est quelque chose d'assez fréquent, pour pas dire rituel. Et donc, d'abord, on avait été surpris dans un premier temps par le nombre de personnes qui nous contactaient pour signaler qu'ils souhaitaient signer, et même des gens qui étaient assez éloignés d'Esprit, en réalité.
À gauche ou à droite?
À droite, non. La question s'est pas posée. Mais justement, dans ce clivage première gauche, deuxième gauche, donc une gauche assez traditionnelle, donc les signatures ont été très larges. En fait, on pensait que ce serait une signature un peu de soit d'experts des questions sociales et de quelques noms autour de ça. Et en fait, ça a pris une ampleur qui nous a quand même beaucoup surpris.
Revenons à cette émission d'Alain Finkielkraut sur les deux gauches, dont on a déjà écouté un extrait. Après avoir entendu Henri Malheur, qui soutenait le mouvement dans la rue, on écoute à présent Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit en 1995.
Et Olivier Mongin,
il est plus réservé sur les raisons de la grève.
Moi, je veux dire, un mouvement social, c'est quand même un mouvement qui propose, non pas nécessairement des alternatives révolutionnaires, est-ce que la question de la révolution s'est quand même posée, c'est aussi un mouvement qui est capable de faire des propositions, et pas uniquement ce qui concerne le service public. Mais j'avais trois points, très rapidement, si vous m'autorisez, Alain Finkielkraut. Je voudrais dire, de même qu'on a posé la question, est-ce qu'être de gauche, c'est nécessairement être pour un mouvement social quel qu'il soit, je pose la question, est-ce qu'être de gauche, aujourd'hui, dans l'opposition, dans une société démocratique fragilisée, où la cohésion sociale pose des problèmes, c'est être nécessairement contre tout ce qui se fait au niveau du mauvais État parce qu'il est de droite. En ce qui me concerne, non, j'ai appris effectivement à m'émanciper par rapport à ce que j'appellerais les clivages idéologiques. La démocratie repose sur le clivage droite-gauche, elle ne repose pas sur la bêtise qui consiste toujours à dire que ce que fait l'adversaire, dans des termes schmittiens, dans des termes guerriers, que ce que fait l'adversaire est mauvais.
Marc-Olivier Padis, que vous inspire cet extrait véhément de votre ancien directeur?
Oui, oui, avec ce flot de paroles un peu généreux et énergique. Ce refus du campisme, en fait, de dire ouais, il faut choisir son camp, on est forcément contre ce que propose un gouvernement conservateur. Et, dans le fond, ce que je vous ai dit, j'ai l'impression, résonne finalement assez proche de ce qu'il disait lui-même. Ce qui me frappe aussi, et c'était aussi dans l'archive précédente, c'est tout de suite la montée en généralité du débat, c'est-à-dire c'est la question, c'est l'égalité, c'est la révolution, et donc on parle assez peu en fait du contenu proprement technique du texte lui-même.
Vous pensez que cette montée en généralité, c'est un problème général qui empêche finalement de voir les réformes telles qu'elles sont, parce qu'on les assimile tout de suite à des concepts qui sont plus généraux?
C'est un peu un mal du débat intellectuel français, c'est-à-dire parce que s'il y a la formation philosophique qui est derrière, et donc on a les concepts, on a l'impression qu'avec les concepts, on arrive à saisir les situations, et donc il y a une espèce de réticence aussi à rentrer dans les questions économiques, sociales, qui sont tout de suite en plus assez techniques, hein, le système de protection sociale français, il était déjà complexe, il n'a cessé de se complexifier depuis. Et donc tout le monde se retrouve dans un style d'intervention publique qui correspond à cette histoire de l'intellectuel à la française. Mais il y a un moment où on a l'impression que c'est un peu une logomachie, quoi. C'est un peu des entités abstraites qui sont brandies par les uns et les autres. Et je ne sais pas dans quelle mesure de l'extérieur on s'y retrouve.
Et au fond, dans les débats, il n'était pas tellement question des détails de la réforme. C'est ça que vous avez remarqué en replongeant un petit peu dans la presse de l'époque aussi?
Oui, parce que, par exemple, je donnais un exemple, j'avais même pas fait attention, la réforme d'Alain Juppé sur la sécurité sociale introduit le carnet de santé, par exemple. Alors, il y a des médecins qui écrivent quand même des tribunes pour dire non, le carnet de santé, jamais de la vie. Mais voilà, c'est pas. On dirait que c'est pas digne des intellectuels de débattre de savoir s'il faut un carnet de santé et qu'est-ce que ça va changer dans le rapport patient-médecin, qu'est-ce que ça va changer dans le suivi des parcours, dans une meilleure utilisation de l'argent public qui est utilisé pour la santé. Voilà, c'est des exemples comme ça.
Les intellectuels signataires de la pétition d'esprit estiment que pour une vraie justice sociale, il faut se rendre compte que la vraie fracture sociale est devenue celle qui sépare les inclus des exclus. Plutôt que de se battre pour conserver les privilèges hérités des luttes sociales du passé, mieux vaudrait remettre à plat un certain nombre d'acquis sociaux afin de prendre en compte ceux qui ne bénéficient pas d'un statut protégé. On écoute de nouveau Olivier Mongin dans cette même archive où on refaisait le match de la grève en janvier 96.
Il y a eu un mouvement qui s'est logé là, au cœur de l'État, et c'est extrêmement important. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui a touché, au fond, les travailleurs à statut, donc les salariés traditionnels. Je m'arrête très très vite. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que nous avons fait notre pétition. Une fois de plus, je ne veux pas revenir dans la guerre des pétitions, parce que nous sommes depuis des années, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, sensibles au problème de l'exclusion, de la précarité et d'un certain nombre de phénomènes de ce genre-là, du chômage, etc. Et nous avons quand même vécu dans ce pays, vous donnez des exemples et j'ai rien à dire contre, mais nous avons vécu dans ce pays quand même de manière un peu surréaliste durant 3 semaines, surréaliste au bon sens du terme, mais surréaliste aussi au mauvais sens. On a quand même attendu le 20 décembre pour que, via le DAL, les exclus soient dans la rue, etc. Donc, nous allons revenir quand même sur le débat sur l'exclusion, oui, parce que mon problème, et je dirais l'enjeu, il est d'arriver aujourd'hui à faire le lien entre le problème du salariat traditionnel et de l'exclusion.
Ce que tout le monde a un peu manqué à cette époque-là, c'est quand même la question de la désindustrialisation qui est devenue aujourd'hui beaucoup plus visible, où on essaye de reparler de réindustrialisation. Mais à l'époque, je pense que les gens se disaient, bon, bah, on est dans le phénomène classique de déversement d'un secteur d'activité à l'autre. Et donc, le monde industriel soit en train de basculer vers un monde des services, ça semblait un peu évident à tout le monde. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est que la France s'est désindustrialisée beaucoup plus que ses voisins. L'Allemagne, bien entendu, mais même l'Italie est plus industrialisée. Alors, on se comparait par rapport à l'Angleterre, et donc on se rassurait. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est la profondeur de la désindustrialisation française et la dimension, même à l'époque pas du tout présente, territoriale de cette désindustrialisation. Parce que elle frappe des territoires entiers où c'est l'ensemble du tissu économique qui est fragilisé, alors que avec cette question des statuts, on reste sur une vision assez classique de l'État qui va réussir à prendre en charge les problèmes et à répondre, alors que la question du chômage était quand même très prégnante, hein. On était au-dessus de 10% de chômage à l'époque, donc c'était quand même très très fort. L'entrée des jeunes dans la vie active était quand même très compliquée, c'était tout ça qu'il y avait derrière.
Donc il y a un mea culpa quand même un petit peu sur cette question de la désindustrialisation.
Ça certainement, ouais. Sur la désindustrialisation, je pense que c'était un sujet qui était trop hors champ.
Le 12 décembre 1995, dans la salle de spectacle du comité d'entreprise de la SNCF, Gare de Lyon à Paris, Pierre Bourdieu s'adresse aux cheminots en grève. D'une voix hésitante, disent les témoins de l'époque, le professeur au Collège de France délivre un discours ferme. Comme il n'existe pas d'archives sonores de ce discours de Bourdieu, je vais vous en lire le début. Je suis ici pour dire notre soutien à tous ceux qui luttent, depuis 3 semaines, contre la destruction d'une civilisation. Je suis ici pour dire que nous ne comprenons pas ceux qui ne comprennent pas, tel ce philosophe qui, dans le journal du dimanche du 10 décembre, découvre avec stupéfaction le gouffre entre la compréhension rationnelle du monde, incarnée selon lui par Juppé, et le désir profond des... Je suis ici pour dire notre soutien à tous ceux qui luttent, depuis 3 semaines, contre la destruction d'une civilisation. Je suis ici pour dire que nous ne comprenons pas ceux qui ne comprennent pas, tel ce philosophe qui, dans le journal du dimanche du 10 décembre, découvre avec stupéfaction le gouffre entre la compréhension rationnelle du monde, incarnée selon lui par Juppé, et le désir profond des gens. Et Bourdieu poursuit. La déraison et l'archaïsme, l'inertie et le conservatisme sont du côté du peuple, des syndicats et des intellectuels critiques. Marc-Olivier Padis, que retenez-vous de cet extrait du discours de Pierre Bourdieu dont je viens de lire un extrait ?
Je retrouve cette idée de monter en généralité dont je parlais tout à l'heure, parce que dès cette première phrase, dire « je viens aux côtés de ceux qui luttent contre la destruction d'une civilisation », ça me semble vraiment caractéristique de cette montée en généralité.
Vous voulez dire que donc Juppé n'était pas pour la destruction de la civilisation, c'est ça que...
Non, oui, c'est ça. C'est-à-dire il était quand même pour, au contraire, parce qu'on craignait à l'époque, il faut voir quand même, c'était la droite Chirac qui l'annonce une privatisation. Donc ce qu'il propose, c'est de sauver la sécurité sociale et de sauver le système de retraite par répartition, alors qu'on craignait aussi qu'il y ait un peu une inspiration à l'américaine et que bon, tout ça parte, puisque on était dans cette période aussi où on parlait de défaire les nationalisations de la période socialiste 81-86 avec les privatisations, etc. Mais à propos de cette intervention de Pierre Bourdieu, elle a été beaucoup rapprochée d'une intervention de Jean-Paul Sartre devant à la sortie des usines Renault après 68, où Sartre disait voilà, il faut refaire le lien entre les intellectuels et les ouvriers, un lien qui a été rompu, etc. Mais Pierre Bourdieu, il se revendiquait de la science, vraiment, c'est-à-dire c'est l'autorité de la chair, il était au Collège de France et il s'appuie sur la légitimité savante, et c'est ce qu'il explique d'ailleurs dans La misère du monde, ce livre qui a eu...
Il a fait des entretiens sociologiques.
Il a fait des entretiens, voilà, et il tenait beaucoup à dire, attention, c'est pas des entretiens journalistiques, c'est un travail de sociologie, son idée, c'est j'interviens au nom d'un savoir universitaire, reconnu, légitime, et c'est en ce nom-là que je prends la parole sur la politique. Et par rapport à ça, Olivier Mongin, lui, avait développé plutôt l'idée d'un intellectuel médiateur, c'est-à-dire un intellectuel inséré dans la démocratie et qui essaye de faire une médiation entre les voix expertes et la décision politique.
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que c'était un peu le dernier des grands intellectuels à la française, comme on l'entendait traditionnellement ?
Au sens que vous avez utilisé, c'est-à-dire de l'impact qu'il pouvait avoir sur l'opinion et puis aussi de la reconnaissance des pairs, ça certainement.
Le discours de Bourdieu qui consiste à dire qu'il y a une alternative au libéralisme, qui est en effet finalement l'argument de fond qui court et qui court jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est-à-dire dans la culture politique française, c'est le service public essentiellement, et puis l'intervention publique de l'État. Et là, ça concernait le financement. Et donc, il ne s'agissait pas de mettre à bas le service public, même si ça remettait en cause des acquis statutaires d'un certain nombre de catégories. Mais je crois que...
Non, c'est les slogans qui étaient dans la rue, c'était défense du service public.
Défense du service public, absolument. Mais je ne pense pas que les gens... et notamment pas Esprit, était contre le service public. Mais même si ça doit surprendre, je pense qu'Alain Juppé non plus n'était pas contre le service public, même s'il pouvait en avoir une idée différente. Et je pense que c'est resté très très présent dans notre culture politique et qui explique aussi beaucoup d'autres débats qu'il y a eu par rapport à l'Europe comme instance risquant de remettre en cause notre conception française des services publics.
Pierre Bourdieu, on l'a dit, avait décliné sa pensée sur de nombreux sujets et dans de nombreux champs. Parmi les champs professionnels qu'il avait étudiés, il s'était intéressé en particulier aux journalistes et aux médias en général. D'ailleurs, le rôle des médias avait été un grand sujet de discussion suite aux grèves de décembre 1995. On en trouve des échos cinématographiques, toujours dans le film de Dominique Cabrera, Nadia et les hippopotames.
Alors, tu nous as vu aux infos ?
Ouais.
C'était bien, qu'est-ce qu'il disait ?
Allez, les embouteillages.
Saloperie de cheminots qui pensent pas à l'économie, qui pensent qu'à leur retraite.
Ouais, ça, les médias, tu peux leur faire confiance, hein.
Bourdieu allait bientôt publier son petit livre intitulé « Sur la télévision » pour expliquer son emprise sur la société qu'il jugeait néfaste. Lui-même s'exprimait très peu dans les médias, car il estimait presque impossible d'y développer une pensée réellement intelligente. Il était tout de même venu parler de son livre « La misère du monde » à l'invitation de France Inter dans l'émission « Radio comme c'est vous » le 13 avril 1993. Un long passage de l'interview avait d'ailleurs été consacré à la façon dont la presse évoquait les questions sociales.
En fait, elle construit, à partir du point de vue particulier des journalistes, elle construit une réalité souvent fantasmatique et sans grand rapport avec la réalité. Alors, par exemple, on le dit dans le livre, enfin, nous sommes allés dans un certain nombre de lieux qui ont attiré les feux de l'actualité, enfin, les feux de la télévision, etc. Nous sommes allés après, et une des principales difficultés que nous avons rencontrées était la résistance que suscitait l'expérience que les gens avaient eue des journalistes. Et il y a une profonde révolte, enfin, chez les objets de journalisme, enfin, contre l'image que le journalisme donne d'eux. Donc, et un décalage énorme entre ce que les journaux disent et ce que l'on peut voir dans le quotidien. En particulier, semble-t-il, parce que ce qui est normal, d'ailleurs ça fait partie des conditions d'exercice du métier de journaliste, les journalistes travaillent dans l'extraordinaire, dans l'extra quotidien, comme dit Max Weber, parce qu'ils saisissent toujours les occasions où il se passe des choses exceptionnelles et ils oublient le train-train de la vie quotidienne qui, même dans les endroits dits difficiles, ce train-train peut être très différent enfin, de l'image qu'on en donne.
Marc-Olivier Padis, ce que vous inspire cet extrait sur l'analyse que Bourdieu fait du rôle des journalistes, et il est vrai qu'on va beaucoup parler des journalistes et du traitement médiatique de 1995.
Oui, moi, il y a deux choses qui me frappent. C'est d'abord, pour lui, c'est le monde de l'erreur. C'est vraiment le monde de l'illusion. D'ailleurs, dans l'archive que vous aviez donnée, Gare du Nord, il parlait du couvercle médiatique qui s'efforce d'étouffer le mouvement social. Et dans d'autres textes, il parle de l'orthodoxie médiatico-politique. C'est-à-dire, il pense qu'il y a une espèce de complicité objective entre Juppé et les médias.
Mmh. Et vous pensez que ce n'est pas vrai ?
Mais je ne pense pas qu'à nouveau, monter en généralité, les médias en général, ça ne veut rien dire. Ça dépend quel média. Et je pense que ce n'est pas vrai. Et je pense que c'est le deuxième point, une stratégie d'intimidation vis-à-vis des journalistes, de dire « vous ne rendez pas compte du réel et moi, en tant que savant, je peux vous dire le réel est différent de ce dont vous parlez ». Et donc, il y avait d'ailleurs, dans cette époque, en 95, toute un effet d'intimidation sur les médias, de dire « voilà, comment est-ce que vous parlez de ce mouvement social ? Est-ce que vous êtes complice du pouvoir ou pas complice ?» Et donc, c'était aussi un moment d'interrogation. Et par la suite, bon, il y a eu le livre de Pierre Bourdieu sur la télévision, mais il y a aussi d'autres livres de gens qui lui étaient proches, sur les chiens de garde. Donc, quand même, un discours assez agressif vis-à-vis des médias.
Résumons. Le 24 novembre, paraît dans Le Monde une pétition initiée par la revue Esprit. Elle est intitulée « Appel des intellectuels pour une réforme de la sécurité sociale ». Parmi les signataires, Olivier Mongin, Alain Touraine, Marcel Gaucher, François Ewald. Le 6 décembre, quelques jours plus tard donc, paraît dans le même journal un texte intitulé « Pour une réforme de fond de la sécurité sociale » parmi les signataires Jacques Rancière, Michel Perrault, Pierre Bourdieu. Voilà, les positions sont à présent consolidées, dans la rue comme dans les têtes. Reste à trouver une façon de sortir des oppositions. On vous raconte comment dans le prochain épisode.
Partage les richesses ! Partage ton travail, ou alors ça va péter, ça va péter.
C'était 95, l'esprit de décembre, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Xavier Joly. Attachée de production, Lily Corner et Anne-Vanessa Prévost. Prise de son, Alexandre Dang et Nicolas Leroulet. Mixage, Olivier Arnay.